Le gouvernement n'a qu'une seule obsession, cacher cette terrible réalité et faire taire toutes les voix qui s'y opposent.
Parlons-en un instant.
On entend souvent dire « notre civilisation, notre société, elle va droit dans le mur ».
Et c'est le moment de subir des électrochocs.
Qu'est-ce qu'on construit? Si ça s'effondre, il faut construire et aller voir ce qui peut émerger, les jeunes pousses de ce qui émerge suite à l'effondrement de cet arbre géant.
Dans les comptoirs du monde sur Radio Balade, 101.8, vous êtes à l'écoute de la station de la Haute-Vallée de l'Aude. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une belle brochette d'invités pour parler de ce qu'il y a de plus important finalement après l'amour, la bouffe. On est là pour parler de nourriture, on est là pour parler surtout d'installations de gens qui la produisent et de paysans, de personnes qui prennent soin de la terre, qui prennent soin des gens qui mangent ce qui pousse. Donc avec nous aujourd'hui autour de la table, on a des maraîchers, on a les maraîchers de la vallée du Fabie, on a Pierre et Christophe de l'association L'Envol Paysan qui sont en installation depuis 3 ans. Bonjour.
Salut.
Salut Christophe. Salut. Salut Pierre. On a aussi Magali. Magali, tu es maraîchère à Castelrain, à côté de Limoux, installée depuis un petit peu plus longtemps.
Ouais, c'est ça, avec Elena.
Avec Elena, et vous êtes les demoiselles.
C'est ça.
On a aussi Nelly, Nelly de l'association L'ADA.
Bonjour.
Salut Nelly. Nicolas, on a vraiment besoin d'un petit élément de contexte là. On est en train aujourd'hui de vivre une période assez particulière où c'est compliqué d'aller s'alimenter. Les commerces soi-disant essentiels, comme les supermarchés qui vendent des tomates qui rebondissent quand on les jette par terre, sont ouverts. Et en même temps, on a vraiment du mal à accéder à des produits de qualité. On voit à quel point l'alimentation mange le monde et mange les ressources de la planète. On a besoin de relocaliser, on a besoin de prendre soin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Bah écoute, tu m'as un petit peu volé mon intro en fait. Moi j'étais parti sur quand l'appétit va, tout va. Voilà. Faut-il manger pour vivre ou vivre pour manger ? Comme le suggèrent Obélix et Astérix dans le fameux dessin animé qu'on a peut-être tous vu, j'espère, Astérix et Cléopâtre. Question amusante mais question sérieuse. Et moi je suis comme toi, tout ce qui tourne autour de la nourriture c'est charnel, ça m'intéresse. Alors aujourd'hui on embarque avec nos invités dans l'émission sur les paysans, ceux qui produisent notre nourriture. Moi, très honnêtement, j'ai pas les mains dans la terre, donc humblement, je glane des informations en me servant de mon ordi et en suivant une question qui m'a intéressé, parce que j'en entends parler depuis des années, et je sais que c'est une des briques du béaba du paysan, c'est l'accès à la terre. Donc je vais vous présenter quelques éléments de situation agricole. Bah, le tableau n'est pas complet, et puis on ira demander à nos invités de nous éclairer sur leur parcours à eux, leurs difficultés, leurs réussites par rapport à ce point-là. Alors j'ai été me coller la lecture du site de la Direction départementale agriculture et forêt de l'Aude. Ne rigolez pas. On retrouve quelques informations intéressantes à propos de notre département. J'imagine qu'il y a le même genre d'informations pour les autres. Bon, moi je suis visuel. Alors j'ai regardé la cartographie des zones agricoles de l'Aude. Une carte qui permet de visualiser les zones agricoles défavorisées. À savoir que la Haute-Vallée se partage entre zones défavorisées sèches, donc j'ai vu qu'il y avait Luxuraude, Roquetaillade, Antuniac, La Serpent, Montazel et Cognillac, et les autres communes qui sont considérées comme des zones de montagne sèche. Ensuite, il y avait une autre carte intéressante, c'était celle des orientations économiques du Languedoc-Roussillon. Donc là, on va à l'échelle régionale en termes d'agriculture. Pas vraiment à jour parce qu'elle date de 2000, mais bon, j'imagine que la tendance n'a pas trop changé. Elle regroupe cette carte par couleur, les orientations majoritaires sur les territoires de chaque commune du Languedoc-Roussillon. On constate la prédominance de la viticulture, bien sûr, sur un arc de cercle qui s'étale des Corbières jusque dans le Gard. Pour ce qui est de la Haute-Vallée, on a un tableau beaucoup plus divers puisqu'on a des pratiques majoritaires qui vont de l'élevage bovin, lait et viande, à la viticulture, à la polyculture. Il y a même, j'ai vu une commune qui était majoritairement orientée vers les fruitiers. Un autre document disponible sur ce site, c'est intitulé « L'agriculture audoise ». Elle fait le bilan en fait sous forme de graphe de l'utilisation du territoire départemental de l'Aude. Alors on va essayer de retenir ce chiffre, l'Aude. C'est un département qui fait 634 435 hectares. Alors, ça n'a pas bougé entre 2000 et 2014, ça, mais par contre, ce qui a bougé, c'est la quantité de sol artificialisé entre 2000 et 2014. On est passé de 30 000 hectares à 45 000 en 14 ans. Donc, il y a plus 15 000. Donc, c'est quand même une évolution notable, à savoir que l'Aude, ça reste un département rural, donc ce n'est pas le département en France qui est le plus impacté par l'artificialisation des sols. Les autres évolutions notables, en tout cas dans l'Aude, sont la perte de 20 000 hectares de landes et de friches, la progression de près de 30 000 hectares des surfaces boisées, donc on pourrait dire que la forêt, quelque part, gagne, et la diminution nette des surfaces agricoles. Elle est passée de 258 000 hectares en 2000 à 235 000 en 2014. Voilà une perte de plus de 20 000 hectares en 14 ans. Si on regarde dans le détail, on voit aussi que dans ces 14 ans, il y a une perte de près de 20 000 hectares de vignes, en fait, qui ont changé d'affectation. Alors, je ne suis pas capable de reconstituer à partir des graphes qui sont fournis exactement les affectations, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'encore en 2014, il y avait 70 000 hectares de vignes dans notre département, ce qui constitue quand même quelque chose d'assez important. Voilà, un secteur qui se porte bien, malgré le recul des terres, puisque on estime que la valeur de la production viticole en 2014 était de 420 millions d'euros, sur une valeur de production, on va dire, totale pour toute activité confondue dans l'Aude agricole, de 690 millions d'euros. Donc c'est les deux tiers, en fait, qui sont constitués par la viticulture et la vente de ces produits dans le secteur marchand. Voilà, un secteur agricole qu'on connaît aussi parce qu'il est soutenu par le département, la région, l'État, l'Europe. Donc il y a un tas d'aides à plusieurs niveaux. Alors 2014, par exemple, 82 millions d'euros ont été versés sous forme d'aides diverses à ce secteur. Et on trouve dans le dernier graphe la part annuelle moyenne qui revient aux installations de paysans au titre du développement rural. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra le préciser, je ne sais pas s'il y a d'autres aides qui s'y ajoutent. En tout cas, cette part-là, dans le développement rural, c'est 800 000 euros. Donc, rapporté à 82 millions d'euros d'aides, voilà, sur une année courante. Donc, c'est le rêve de certains de s'installer, certains franchissent le pas, d'autres non. Donc, on voit que les moyens sont peut-être pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attendrait des pouvoirs publics. On en discutera peut-être ensemble. En tout cas, si on en croit la Confédération paysanne, et là je vais lire un tract que j'ai trouvé, un tract récent, la chute du nombre d'installations en France se poursuit inexorablement depuis plusieurs décennies. En 2016, ce nombre a encore diminué de 6%, soit 940 installations de moins qu'en 2015. Bon, ce serait intéressant de savoir ce qu'il en est en 2020. Surtout, autre chose importante, c'est que 53% des actifs agricoles ont plus de 50 ans. Et donc, ça laisse à penser qu'en fait, il y a un enjeu démographique là qui va s'aggraver au fil des ans. Alors, ce document de la Confédération paysanne, il vient aussi nous dire qu'il y a deux tiers des installations qui s'effectuent sans aucune aide, en fait. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a quand même ce point qui est, on va dire, mis en avant par la Confédération paysanne, des syndicats paysans, donc, mais aussi des associations diverses, et également des gens qui sont très éloignés du monde agricole, on va dire, qui n'ont pas du tout les mains dans la terre non plus, c'est-à-dire la Cour des comptes. Et là, c'est beaucoup plus récent, c'est une note du 28 juillet 2020, qui est adressé au Premier ministre Jean Castex par le président de la Cour des comptes, qui s'appelle Pierre Moscovici, un ancien, récent, futur du PS, on ne sait plus trop, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas paysan de base. Hein. Et donc les trois titres, je vous passe la note, le référé qui fait 6 pages, mais les trois titres qui sont mis en valeur, c'est premier titre, l'artificialisation des sols au détriment de l'agriculture et la concentration des terres agricoles se poursuivent. Donc là, deux choses, l'artificialisation des sols, en 10 ans, ça a concerné 600 000 hectares. Souvenez-vous, l'Aude, la surface de l'Aude, c'est 634 000 hectares. Donc ça veut dire qu'il y a un département français, en 10 ans, qui a disparu, en tout cas, qui n'est plus susceptible d'être cultivé, puisque les sols ont été bétonnés. Autre titre de ce référé, hein, document de la Cour des comptes, des améliorations sont nécessaires pour mieux maîtriser l'évolution du foncier agricole. Alors en termes de prix et puis aussi en termes, si j'ai bien compris le document que j'ai lu, en termes d'organisation en fait, de structuration de la SAFER notamment, il est question de la SAFER. Qui est un organisme qui va distribuer un peu les terres agricoles, enfin qui joue un rôle en gros d'agence immobilière. C'est un petit peu grossier, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis le troisième titre, c'est une régulation plus efficace du marché foncier agricole apparaît désormais conditionnée par des choix politiques. Alors un titre un peu compliqué pour dire que, en fait, et c'est la conclusion d'ailleurs du rapport, que en fait, l'importance des enjeux, c'est ce qui est texto écrit, ne s'accommode plus du statu quo. Donc la Cour des comptes demande au gouvernement de bouger, et là on n'est pas dans un repère de syndicalistes ou de, je sais pas, gauchistes ou de gens intéressés au premier chef parce que c'est leur activité. C'est Moscovici, quoi, la Cour des comptes. Voilà. Donc ce rêve d'installation, peut-être que quand on a vu un petit peu les budgets, on se dit qu'il serait bien qu'il soit accompagné. Et puis, en fait, c'est déjà le cas, puisqu'on a avec nous une personne qui vient nous expliquer un petit peu quel est le travail de l'ADEAR, donc Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural. Je te laisse te présenter, Nelly. Vas-y.
Merci. Eh bien, je suis Nelly Libert, donc accompagnatrice à l'installation et à la transmission à l'ADEAR de l'Aude depuis 2015. L'ADEAR, c'est une association qui a été créée en 98 par des paysans pour qui l'installation n'avait pas été facile. Donc soit parce qu'ils étaient hors cadre familial, c'est-à-dire qu'ils s'installaient alors que leurs parents n'étaient pas installés, soit parce qu'ils n'étaient pas issus de l'Aude et donc ne connaissaient pas le territoire. Soit parce qu'ils n'avaient pas de diplôme agricole ou alors ils voulaient faire des productions qui n'étaient pas forcément les productions dominantes du département. Et donc du coup, ils se sont dit que ça valait le coup de créer une asso pour aider les personnes qui voulaient s'installer, puisque elles, leur installation avait été compliquée. Voilà, et donc aujourd'hui, l'ADR continue d'accompagner des personnes qui souhaitent s'installer. On reçoit à peu près 300 personnes par an. Là, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais voilà. À tous les stades, en fait, des projets. Donc, soit ce qu'on appelle l'émergence. Donc, on a l'idée de vouloir s'installer, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, comment on va le faire. Soit alors des personnes qui en sont à la définition du projet, donc ont une idée plus claire de ce qu'elles veulent faire. Soit même qui en sont à la concrétisation, quoi. Elles sont sur le point de s'installer. Voilà.
D'accord, donc depuis 1998 sur l'Aude en tout cas, est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre de personnes qui vous ont sollicité et peut-être aussi savoir où est-ce qu'on peut vous solliciter ?
Oui, complètement. Alors au début, l'ADR de l'Aude était d'ailleurs basée dans la Haute-Vallée. Je crois qu'elle était à Montazel, dans l'ancienne usine de chapeaux. Et puis au fur et à mesure, justement, les sollicitations, elles ont augmenté, on va dire, de toutes parts dans le département. Donc il y a eu la décision de se recentrer un peu. Donc maintenant, on est basé sur Limoux. Et après quelques déménagements, maintenant, on a pu acquérir une maison, donc la maison paysanne de l'Aude, qui est l'ancienne chambre de commerce et d'industrie, l'antenne Limouxine, en face de la piscine municipale. Voilà, et on est donc là-bas, l'ADR, avec d'autres associations, donc sept autres associations, que sont, donc on constitue la Maison Paysanne de l'Aude, on a constitué une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui regroupe les différentes assos et qui a elle-même des salariés pour mener des projets, en fait, on va dire, polyvalents, qui permettent de regrouper toutes les compétences des différentes assos. Est-ce que je parle des différentes assos présentes ?
Si tu veux les présenter très rapidement, enfin en tout cas dire qui est là.
Ouais, en gros, notre socle à tous, c'est l'agriculture paysanne. Peut-être je pourrais redéfinir ce que c'est, mais en tout cas, c'est l'agriculture qu'on soutient. Et donc, il y a Accueil Paysan, il y a la FOG, qui est l'association de formation collective à la comptabilité gestion. Il y a Nature et Progrès. Qui délivre la mention du coup Nature et Progrès, qui est une mention d'agriculture agroécologique. Il y a la Confédération Paysanne, donc le syndicat. Il y a également Solidarité Paysan, qui a une salariée depuis très peu de temps, mais qui auparavant aidait donc, les paysans en difficulté via des bénévoles. Et donc là, depuis cette année, il y a une salariée. Et puis ensuite, Tring. je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon.
Plus vous, quoi. Plus l'ADR.
Plus Terre de Liens, pardon.
Ah, Terre de Liens aussi.
Terre de Liens qui est d'accord. Là. Et après, Accueil Paysan, l'antenne Occitanie.
D'accord.
Nelly, tu parlais d'agriculture donc paysanne. Est-ce que tu peux le définir et peut-être par là même nous dire quels sont les projets d'installation que vous soutenez,
ouais.
C'est-à-dire les gens qui viennent vous voir, c'est pour produire quoi ?
Ouais. Alors l'agriculture paysanne, elle a été aussi définie en fin des années 90, on va dire, puisque justement la Confédération paysanne, qui est finalement le syndicat auquel est rattachée l'ADR. L'ADR, nous, on est l'association d'accompagnement, et donc la Confédération paysanne, le syndicat plus pour les luttes. Et la FADER, donc la Fédération des ADR, puisqu'elle est représentée au niveau national, on fait tout un travail pour définir l'agriculture qu'elles soutenaient. Ok, elles étaient contre l'agriculture, on va dire, conventionnelle, mais l'important, c'était d'être pour une agriculture. Et donc l'agriculture paysanne, elle repose sur six grands principes, six grandes valeurs, qui sont le travail avec la nature, le respect de la nature, la qualité des produits, la répartition des paysans sur le territoire, la non-accumulation des terres, le développement local, parce que le paysan, c'est un acteur aussi local dynamique qui permet donc d'avoir des campagnes vivantes. La transmissibilité, se donner les moyens de réfléchir justement au fait que sa ferme soit transmise plus tard, quand on arrêtera notre activité ou qu'on partira à la retraite. Et enfin, de développer l'autonomie des fermes, donc aussi bien l'autonomie économique que l'autonomie décisionnelle. Voilà. Et donc l'agriculture paysanne, on va dire que c'est une démarche. La majorité des personnes qui viennent nous voir, elles ont une sensibilité par rapport à l'agriculture paysanne. Et la majorité du temps, elles ont des valeurs qui sont les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais elles sont plus ou moins avancées, on va dire. Et donc du coup, s'il y a l'envie de continuer d'aller plus loin, on peut en parler ensemble. Voilà.
Donc, si je comprends bien, l'agriculture paysanne, c'est pas forcément lié à un type de produit qui va être fait, mais plutôt à la démarche globale, aux méthodes de production.
C'est ça, complètement. Et après, les personnes qui viennent nous voir, on va dire, elles peuvent avoir envie de faire tout type de projet dans tout type de production, aussi bien végétale qu'animale, sur des petites surfaces, sur des grandes surfaces. Elles peuvent aussi. Et on va dire que la majorité du temps, quand même, on se retrouve avec des personnes qui ont envie d'avoir un métier divers aussi et varié, et qui envisagent aussi bien de produire que de vendre en vente directe ou que de transformer. Voilà.
Ça, c'est des spécificités de l'agriculture paysanne, le fait d'avoir ou de la polyculture, plusieurs productions, ou de tenir aussi un peu les rênes. De la production jusqu'à la vente ?
Oui, oui, complètement. Alors on va dire que par rapport à tenir les rênes de la production jusqu'à la vente, ça permet d'être autonome, justement, de ne pas dépendre d'un seul... Alors après, c'est pas obligatoire de vendre soi-même ses produits. Bien souvent, il y a l'intérêt, parce que c'est aussi la sacralisation, dans le sens où on a produit, et derrière, de pouvoir vendre et d'être en contact avec le client, lui parler de sa production, ça peut donc être une satisfaction aussi pour l'agriculteur. Après, il y en a qui viennent nous voir et qui disent « Moi, par contre, la vente, je suis vraiment nulle, je ne sais pas du tout mon truc. » Et c'est pas obligatoire non plus. Mais on va dire, en tout cas, on fait beaucoup réfléchir sur à qui vous allez vendre, le risque qu'il peut y avoir de vendre à un unique client qui pourrait, lui, un jour fixer ses propres prix, et donc nous ne plus être maîtres du prix de vente de nos produits. Et de la même manière, de faire attention à l'amont, qui sont nos fournisseurs, et de ne pas non plus être esclave de fournisseurs qui décident pour nous ce qu'on va faire. Donc oui, l'autonomie, c'est très important.
Et avoir une compréhension de la chaîne. Est-ce que toi, tu es agricultrice toi-même ? Parce que quand tu dis « nous », j'ai l'impression que c'est le cas.
Non, je ne suis pas agricultrice. Je pense que je disais « nous » dans la relation... Enfin, nous, les accompagnateurs, on veille à ça. Voilà, et après on est accompagné, du coup, on va dire que la majorité des membres du conseil d'administration sont des agriculteurs. Et donc du coup on échange aussi beaucoup sur notre accompagnement et ce qu'on doit apporter aux porteurs de projets. Voilà, et il y avait une deuxième question par rapport à la qualité des produits peut-être ?
Ouais, en tout cas, qu'est-ce qui différencie aussi un produit de l'agriculture paysanne d'un autre ? Et puis voilà, j'avais aussi une question qui était vraiment par quoi faut commencer hein, quand on veut s'installer. Ouais. Là, on a des maraîchers autour de la table. J'imagine que c'est pas l'installation la plus facile.
On va dire que toutes les installations, enfin, ce qui est important pour donc nous à l'ADR, c'est que les personnes qui viennent nous voir, elles réalisent vraiment ce qu'elles veulent faire. Donc elles viennent nous voir avec une idée de projet. Certaines fois, c'est juste, j'aimerais bien faire de l'agriculture, mais bien souvent, j'aimerais faire telle production. Et donc, on va dire que nous, ce qu'on vient voir en tant qu'accompagnateur, c'est les motivations et les valeurs qui portent le projet et la personne. Et on y passe du temps parce que bah, bien souvent, quand on monte un projet, on peut finir par avoir la tête dans le guidon. Et si on sait ce qui nous pousse et si on l'a très au clair, ça nous permet de nous porter jusqu'au moment où on réussit à faire ce qu'on voulait faire. Et après, je sais pas, je pense que c'est très... On va dire que chaque production demande sa technicité et ses compétences. Et donc, du coup, je sais pas s'il y en a une plus facile que les autres. Par contre, c'est vrai que le maraîchage, c'est l'une des plus pénibles, physiquement notamment, et où il faut que les porteurs de projets fassent attention à eux par rapport à leur dos, par rapport aux postures. Et ça peut aussi être travaillé avec des interlocuteurs, notamment la MSA, qui essaye là de plus en plus de réfléchir à toutes ces postures, en tout cas, pour que ça soit moins difficile, le métier, et qu'on puisse le faire plus longtemps.
Et moi, j'avais une question parce que j'ai vu sur le site de la DER que, par exemple, dans le Massif Central, ils ont mis en place un réseau de tuteurs. Mmh. Si j'ai bien compris, des agriculteurs déjà installés qui accompagnent non seulement, pas forcément même avant, aussi pendant, et également... à la suite quoi, de l'installation, on va dire, une fois que l'installation est finalisée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé pour l'Aude, ou est-ce que vous en avez déjà discuté?
Alors ça a déjà été discuté dans le passé, il y a déjà eu une volonté en tout cas. Je ne sais pas exactement pourquoi ça s'est pas fait, en tout cas peut-être autant que dans le Massif Central, mais nous c'est vrai que l'accompagnement paysan, ça va être un des trois piliers de notre accompagnement. Mmh. Donc, en plus de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. Et donc, l'accompagnement paysan, c'est soit juste une des rencontres, c'est-à-dire que quand les porteurs de projets viennent nous voir, on les met en contact avec des paysans qui font les mêmes productions que celles qu'ils envisagent de faire pour pouvoir discuter avec eux, puisque nous, on n'est pas des techniciens, les accompagnateurs. Donc là, c'est de rencontrer des personnes de terrain qui ont la réalité qu'ils auront plus tard, les porteurs de projets. Donc ça, soit c'est une rencontre, comme ça, sur un numéro de téléphone qu'on a donné, mais on organise aussi des visites de ferme, donc qu'on essaye de faire normalement mensuellement, où là on invite toutes les personnes intéressées à aller visiter ce mois-ci par exemple une ferme en volaille, et le mois prochain une ferme en maraîchage, où là du coup il peut y avoir un échange avec les paysans, ça dure une journée, le matin il y a le paysan qui explique comment il s'est installé, sa trajectoire d'installation et le système qu'il a mis en place aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant pour les porteurs de projets parce qu'ils voient comment il a débuté, par quoi il a commencé, avec quel financement, avec quelle expérience, sur quel foncier. Voilà. Et l'après-midi, du coup, il y a un travail qui est fait d'analyse de la ferme pour que chaque porteur de projet reparte, on va dire, avec la photo de la ferme et aussi une méthode. Mmh. Voilà. Et donc ça, c'est les visites de ferme. Et il y a aussi la possibilité de faire des stages paysans. Donc du coup, des porteurs de projets qui auraient besoin de se former et qui vont faire un stage de 2 mois chez des paysans.
Ouais, je voulais savoir si du coup nos producteurs qui sont avec nous sont déjà rentrés dans le système, enfin ont déjà fait des visites. Et puis qu'est-ce que vous en avez peut-être retiré au niveau de l'expérience?
Bonjour, moi c'est Christophe. Du coup, moi ça fait un moment que je suis et que je suis suivi par la DEART, que je remercie énormément d'ailleurs, parce que c'est les seuls qui nous écoutent dans les projets paysans hors cadre, on va dire. Et oui, c'est très important de faire des visites, effectivement, avant de se lancer, parce que tout est différent, tous les contextes sont différents. Faire un choix dans l'agricole de production, c'est pas évident. Il faut visiter des fermes énormément, je pense. C'est très important, ouais.
Moi, j'avais une question aussi, une dernière question peut-être pour toi, Nelly, oui. Sur justement cette transmission de savoir. Elle va aussi des fois avec une transmission de ferme, en fait. Mm-hmm. On parle d'installation, mais Souvent, l'installation, c'est une transmission d'un outil qui est déjà existant. Oui. Donc, est-ce que vous avez un suivi particulier sur ces types d'installations-là ?
Oui, complètement. On va dire que ça fait déjà quelques années que l'ADR de l'Aude s'est dit qu'on ne pouvait pas penser à installation sans penser à transmission et vice-versa. C'est vrai que la problématique de la transmission, ça peut être complexe puisque les paysans ont un certain affect avec leur ferme, ils y ont travaillé toute leur vie, c'est pas forcément évident de voir qu'elle est reprise par des personnes qui vont faire des choses différentes. On peut aussi avoir d'autres freins pour les repreneurs du coup par rapport au financement de cette ferme, si elle a énormément de bâtiments, beaucoup de fonciers, donc des freins peut-être économiques. Il n'empêche que justement nous on est là pour essayer de voir comment faire, de faire rencontrer les projets et des cédants et des repreneurs. Donc là ça fait un petit moment qu'on accompagne également les personnes qui souhaitent céder leur ferme, donc on se voit en accompagnement individuel et on fait le point sur ce qu'elles veulent, enfin quand est-ce qu'elles veulent partir, on va dire quel serait par exemple le repreneur idéal. On travaille aussi sur la valeur de leur ferme, aussi bien la valeur patrimoniale que celle qu'il est possible qu'un porteur de projet paye en fait. Et derrière on essaye de mettre en liaison aussi avec des porteurs de projet qui viennent nous voir, et si besoin on accompagne aussi les deux justement ensemble. On est une tierce personne dans la discussion, on va dire. Et donc oui, on y accorde et on y accordera de plus en plus d'importance à la transmission des fermes pour que justement ces fermes-là ne partent pas à l'agrandissement ou ne restent pas en friche et qu'elles permettent l'installation de nouvelles personnes.
Oui, parce que ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'effectivement, quand tu parles de ça, c'est vrai que l'alternative en fait à la transmission et à l'installation de quelqu'un d'autre, c'est en fait l'agrandissement. Mmh. Et là, dans les documents que j'ai lus, en fait, je m'aperçois que les chiffres, ils sont quand même assez hallucinants. En 2016, il y a 436 000 exploitations agricoles en France, alors qu'en 1988, il y en avait 1 million. Mmh. Donc en fait, dans le document de la Cour des comptes, ils disent que la surface moyenne, elle est passée de 40 à 60 hectares. Mmh. Donc c'est vrai que là, la concentration... Je veux dire, elle est concrète et réelle, quoi. Donc, merci pour le travail accompli. Et puis, merci à ceux qui s'installent, parce qu'on a besoin de vous.
Et merci à ceux qui s'installent, et donc particulièrement, notamment à Magali, qui est à côté de toi, qu'on va interroger sur son parcours d'installation et de transmission, après avoir écouté ce petit morceau de musique. Merci à Ridan.
De télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Coin de soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
Paysan, ça veut dire vivre dans son pays et c'est vraiment ma passion.
Quand on fait un métier, je pars du principe qu'il faut déjà être fier pour le faire. Chaque jour est différent.
Je pense que toute personne passionnée, de toute manière, est fière de ce qu'elle fait. Autrement, elle ne vivrait pas cette passion.
Ah, la fierté paysanne. Il doit y en avoir une qui l'a assise à cette table, c'est Magali Manka qui, avec sa collègue Elena, a monté le Jardin des Demoiselles il y a quoi, 5 ans, 6 ans maintenant ?
Ouais, ça fait 5 ans.
Ça fait 5 ans. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ce parcours d'installation qui est d'ailleurs, on en parlait juste avant, un parcours de transmission finalement ? Tu as repris une ferme qui existait déjà.
Ouais, on a repris du coup la ferme de Max qui est à Castelrain. Et ça faisait déjà, moi, quelques années que je travaillais pour lui. Elena, d'ailleurs, j'ai croisé Christina là-bas. Et du coup, Elena est venue remplacer quelqu'un d'autre. Et du coup, on a travaillé ensemble pendant un moment. Et c'était le moment à Max de partir à la retraite. Et il se posait la question, il voulait vendre, il cherchait quelqu'un pour reprendre. Le problème, c'est que sa maison était au milieu du jardin. Donc du coup, ça voulait dire vendre sa maison, vendre son jardin et partir et changer. Et je pense que ce n'était pas forcément l'envie qu'il a eue. Et petit à petit, il y a eu une idée. Il a proposé à Elena. Moi, j'étais partie pour une année sabbatique. Et il a proposé à Elena de reprendre l'exploitation. Qui est venu me voir et m'a demandé si j'étais d'accord de reprendre. Du coup, j'ai dit oui tout de suite. Bon, en conditionnant que j'avais le droit d'avoir un peu de vacances, comme j'aime bien voyager. Mais donc, on a dit oui et ça s'est fait un an après. On a eu un an de répit, du coup, on a repris l'exploitation. Mais on n'avait pas d'argent. Donc c'est sûr que c'était pas facile pour acheter du matériel ou acheter les terres ou commencer à travailler. Donc il nous a proposé... aussi, on se connaît. Donc je pense que ça a été plus facile pour lui de nous le proposer avec la confiance et tout ça. Il nous a proposé d'acheter le matériel en location-vente sur plusieurs années. Donc on pensait lui acheter en 3 ans, on l'a fait en 4 ans. Et aussi à un prix assez réduit, je pense. Enfin, correct. Voilà, du coup, on a acheté tout le matériel. Il nous a mis en fermage sa terre, qui est où il y a sa maison aussi dessus, donc avec grande confiance. Et du coup, ouais, donc voilà, on a acheté petit à petit ce matériel et ça nous a permis. Un jour, il nous a dit bon, ben voilà, maintenant c'est à vous de planter. Il nous a donné tout son matériel, tous les écrits qu'il avait, tous ses carnets de plantation, toute son expérience.
C'est ça, on parlait tout à l'heure de transmission de savoir-faire, Nelly de l'ADR nous en parlait. En plus de vous transmettre sa terre, j'imagine que Max vous a aussi transmis la manière dont il, en tout cas des techniques culturales, parce que toi finalement tu n'avais pas énormément d'expérience avant de devenir exploitante agricole.
Ah non, pas du tout, moi je faisais ce qu'on me disait de faire, donc j'avais pas beaucoup de réflexion... sur comment on faisait, comment c'est prévoir à l'avance, les cultures et tout ça. Et donc, l'avantage, c'est qu'il habite dans le jardin. Donc, dès qu'on a une question, on pouvait lui poser la question. Et il a continué à travailler avec nous pendant quelques années aussi. Donc, on avait le savoir à côté de chez nous. Il y a aussi un maraîcher qui est à côté. Donc, on avait encore double expérience de pouvoir poser des questions. Et c'est très rassurant. Parce qu'on a quand même commencé, on ne savait pas où aller, on ne savait pas quoi faire. On a mis quelques années avant de s'y connaître en irrigation et encore. Et on a encore des trucs à apprendre et même conduire le tracteur. Le motoculteur, c'est un dinosaure, on n'arrive toujours pas à le conduire. Donc heureusement qu'il était là parce que sans lui, on n'aurait pas pu le faire. Mais du coup, c'est chouette. Et petit à petit, en fait, on a pris de l'autonomie, il faisait moins en moins de choses. Et là, ça fait un an qu'il est vraiment à la retraite. Enfin, vraiment à la retraite. Il est toujours commerçant, mais en tout cas, il met plus trop les pieds sur le jardin. Quand on en a vraiment besoin, il est là. Quoi.
Tu as suivi des formations, toi, ou Elena, sinon ?
Elena, elle a un CAP horticole. Moi, non, j'ai fait quelques formations, je ne sais plus si c'était avec l'ADR, j'ai suivi quelques formations grâce à Vivea avant de m'installer, mais pas en maraîchage. Vraiment, le maraîchage, c'est l'expérience qui a fait.
Alors, peut-être, est-ce qu'on peut parler de Vivea, définir qu'est-ce que c'est ? Nelly Libert de l'ADR, on t'écoute.
Vivea, c'est le fonds de formation des agriculteurs. Donc du coup, un agriculteur à titre principal, quand il est installé et qu'il paye ses cotisations, il y a une partie qui va pour Vivea. De même, un cotisant solidaire. Même, bien sûr, un cotisant solidaire aussi paye Vivea. Et donc du coup, grâce à cela, donc, les personnes installées peuvent se former. Et Vivea a aussi élargi sa politique en acceptant du coup que les porteurs de projets se forment également. Donc ça, c'était il y a quelques années, alors qu'ils ne cotisent pas. Donc ça, c'était super, parce que justement, c'est le moment où on a du temps pour se former et où on fait des choix cruciaux pour l'avenir. Donc c'est chouette d'avoir toutes ces connaissances-là. Là, il y a une petite baisse, il y a une limitation de Vivea, parce qu'ils avaient des soucis économiques et on ressent les désavantages et c'est dommage, quoi. Mais bon, ils ont encore, on arrive encore à ce que les porteurs de projets puissent se former malgré cela.
Super. Et donc, ce que tu nous expliquais, Magali, c'est que toi, tu t'es formée sur le tas, finalement. Et tâche d'autant plus compliquée que tu as choisi un modèle assez intégré où vraiment, tu fais un maximum de choses. Tu assures toi-même la vente aussi.
Oui, complètement. C'est venu petit à petit. On a repris vraiment le modèle que Max avait de vendre sur les marchés. On a remis un peu plus en route la vente à la ferme et encore plus maintenant avec le confinement et aussi grâce à Max et qui s'y implique. On a lancé aussi les paniers à Bourriège le jeudi soir où on livre. Donc ça, c'est super pour notre petite vallée de pouvoir fournir ça. et qui est la cagette aussi.
L'épicerie ambulante.
L'épicerie ambulante maintenant depuis le confinement, qui est une super initiative et j'espère va continuer, je pense. C'est très bien. Voilà. Je sais pas où est-ce que tu voulais.
Comment est-ce que vous arrivez à articuler ça en fait avec ta collègue de faire en même temps la production, la vente. Vous faites vos semis aussi, vos plants.
Vous dormez.
je pense qu'on a une super organisation et que après je le vois maintenant, mais on est très bien organisé, tout est noté, du coup ça nous fait un gain de temps, on parle beaucoup, donc ce qui fait que quand on fait quelque chose, on sait tout de suite qu'est-ce qu'on va faire après, et donc je pense que ça déjà nous aide énormément là-dedans pour réussir à faire tout, et aussi que c'était un modèle qui était déjà en route, donc on n'a pas eu à tout réfléchir, on n'a pas dû à réfléchir à l'irrigation, les serres, comment on va faire chercher des modes commerciaux. C'était déjà en route, donc on a juste repris une clientèle qui était déjà là et qu'on a augmenté, qu'on a cherché à faire plus. Puis comme on a repris plus de terre, on a plus de légumes, donc on a toujours cherché à aller, à avoir un éventail, un panaché un peu plus grand, pouvoir fournir les magasins. Et en fait, la demande, elle est énorme. Donc moi, j'ai beaucoup cette envie de vouloir fournir. Bon, c'est impossible, mais j'avais cette envie de pouvoir proposer plus localement parce qu'il y a une demande énorme et que je me suis dit bon.
Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui t'empêche de produire plus ou est-ce que tu as des perspectives de développer encore plus justement dans cette voie-là, ou est-ce que là, t'es arrivé à un endroit où tu te sens bien, où vous te sentez bien du coup, puisque vous êtes au moins deux.
Là, on est très complémentaires là-dessus, parce que moi, je foncerai, j'achèterai plein de terres, je ferai des investissements, et en même temps, on est quand même bien, c'est déjà beaucoup, on a grandi depuis, on a 1,7 hectare, et en fait, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Même si on aime ce travail, on aime bien avoir du temps libre et on voit que ça fait 5 ans et qu'on est en fait on est fatigué. On voit qu'on est un peu plus fatigué, mais on adore. Et donc je pourrais imaginer grandir si c'est possible sans travailler plus, mais je sais pas si c'est possible. Mais j'aimerais bien faire un peu plus de patates, des choses comme ça. Mais je pense que 2 hectares c'est vivable. Et mais plus ça commence à devenir trop intense et moins vivant, moins vers l'humain, c'est autre chose peut-être, mais voilà.
En tout cas, c'est intéressant de voir qu'avec 2 hectares, vous arrivez à avoir une activité dont vous pouvez vivre. Quand on compare avec d'autres modes culturaux, tu voulais rajouter quelque chose.
On commence tout juste à réussir. Je pense que cette année, on n'arrivera pas, enfin cette année, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, à avoir un SMIC. Qu'on n'a pas.
Un SMIC pour deux ou...
Non, un SMIC chacune, ce qui est génial, et ce qui, mais bon, qui est normalement devrait être normal et dès le départ d'avoir ce salaire-là pour des gens qui nourrissent qui nourrissent les gens, ce qui est quelque chose qui est vital. Ouais.
Donc en plus de vouloir faire plus de patates, tu veux faire plus d'oseille aussi.
Non, j'en veux pas plus, je veux en faire correctement.
D'accord. Mais c'est bien de parler d'argent aussi, parce que justement sur les parcours d'installation, je crois que le maraîchage, c'est l'un des parcours qui est le moins aidé. C'est-à-dire que si tu veux te lancer en grande culture ou en élevage, t'as des aides PAC ou des aides jeunes agriculteurs qui sont assez conséquentes. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus, Nelly, là-dessus. Mm-hmm. Au niveau du maraîchage, les gens partent un peu à poil, non ? Y a pas vraiment de soutien à l'installation ?
Effectivement, par rapport aux aides, il y a pas mal d'aides qui sont proportionnelles à la superficie. Et donc en maraîchage, c'est des petites superficies. Donc de fait, les aides sont réduites. On va dire que tout à l'heure, on parlait de parcours aidé. Effectivement, le parcours aidé, ce qu'on entend par là, c'est l'accès à la dotation jeune agriculteur, qui là est une aide pour toute personne qui a moins de 40 ans, mais qui bénéficie d'un diplôme agricole. Donc là, ça met quand même des conditions. Donc par exemple dans le cas de Magali et Elena, ça n'aurait pas fonctionné puisqu'elles n'avaient pas le diplôme de niveau 4 qui pouvait leur permettre d'accéder à cette aide. Et par rapport à cette aide, pour terminer, en fait elle est différente selon si les personnes s'installent en plaine ou en montagne. Et donc bien souvent le maraîchage est plutôt en plaine et donc elle est réduite. Elle va être plutôt autour des 15 000 euros en moyenne, on va dire, alors qu'en montagne, elle peut monter jusqu'à 30, 40 000.
Ok, merci, merci beaucoup Nelly. Du coup, peut-être ma dernière question pour toi, Magali, ça va être ça. Vous êtes partie de pas grand-chose. Au bout de combien de temps vous avez réussi à en vivre, certainement, de manière à pouvoir s'offrir un peu de vacances
Bah, en fait, je dirais, de nous, vu que c'était déjà en route, on a quand même un parcours hyper facile et qui fait énormément de bien. Et on a tout de suite pu s'offrir des vacances. Aussi, on n'est pas mariés, on est chacune de notre côté. Donc ça veut dire que si moi je veux partir en vacances, Elena reste ou vice-versa. Et donc ça, ça facilite énormément le travail. Et donc je pense que dès le départ, on s'est quand même... on a eu du temps, et aussi qu'Elena a une vie de famille, elle veut être avec ses enfants, et donc on s'est aussi mis des horaires de travail qu'on respecte, et qui, comme plein d'agriculteurs, diraient qu'à 18h, on finit pas le travail à 18h, mais nous, 17h30, 18h, on s'en va du jardin, on commence très tôt, mais on a toujours essayé de garder un rythme comme ça, et parfois on abandonne, c'est sûr, parfois on abandonne des choses qu'on aurait voulu faire, et on les met de côté, mais... Ça avait plus de sens d'avoir du temps libre que de s'acharner au travail. Quoi. Voilà.
Super, merci. Avant de passer à la suite et d'interroger les maraîchers de la vallée du Faby, Christophe et Pierre qui sont avec nous, on va s'écouter encore un petit morceau de musique. Et c'était Cactus avec Parchman Farm, enregistré en 1970. Et nous revoilà dans le comptoir du monde. On est sur Radio Balade. Exceptionnellement, on n'a pas pu aller enregistrer au Café de Fa, cette fabuleuse émission mensuelle que vous suivez sur le 101.8 et sur Radio Balade sur Internet. Je crois que c'est www.balade.net. D'où nous sommes donc dans les studios de Radio Balade. Nous sommes en direct. Nous sommes avec Pierre Prado et Christophe Aurin, maraîchers à Rouvenac dans la vallée du Fabie et jeune installé agricole, puisque vous êtes arrivé, vous avez commencé à cultiver cette terre il y a quoi, 2-3 ans, Pierre ?
Moi je suis arrivé un peu plus, mais officiellement je suis cotisant solidaire depuis 3 ans. Ouais.
Christophe ?
Moi ça fait 2 ans que je cultive dans la vallée de Rouvenac, je suis donc cotisant solidaire depuis 2 ans. Et je suis vraiment encore en phase d'installation, d'agrandir les terres.
Alors, une première question, déjà peut-être pourquoi vous êtes installé ici ? Et puis, qu'est-ce que vous produisez ? Est-ce qu'on parle d'agriculture paysanne, comme on en parlait en début d'émission avec Nelly de l'ADR ? Est-ce que vous vous sentez paysan ?
Pas encore. parce que, tout simplement parce que j'en vis pas. Pour l'instant, parce que donc moi c'est une installation partie d'un plein champ, donc il y a tout à faire. Ça demande beaucoup de moyens techniques. Puis on est dans l'Aude, il n'y a pas énormément d'eau partout, donc c'est des pour le maraîchage, voilà, c'est des gros du travail, c'est d'être au point sur des réserves d'eau, gérer son eau et l'irrigation qui en suit. Et ça, c'est vrai que ben ça prend, on met du temps à apprendre tout ça. Et mais oui, je compte devenir paysan dans le sens que disait Nelly tout à l'heure sur la valeur des produits et le côté humain de l'installation. Ouais.
Et donc, oui, Pierre ?
Oui, moi je me considère comme paysan quand même, je pense. Même si personnellement, j'en vis pas encore réellement, mais oui, je me considère. Je suis arrivé ici il y a 8 ans et c'est une manière aussi de m'installer dans ce pays. De pouvoir avoir une certaine autonomie personnelle et familiale, mais aussi bien sûr pouvoir fournir des légumes. J'avais auparavant travaillé un peu dans les magasins bio et constaté que la demande devenait de plus en plus énorme, alors que les produits viennent d'Espagne ou du Maroc, et on a besoin ici de produire. Et je pense que c'est ça être paysan, c'est être en contact avec sa terre et pouvoir sortir des produits qui nous font du bien à nous et aussi à nos proches, et pouvoir aller vers une certaine autonomie alimentaire globale, une certaine résilience, parce que on voit bien avec ce qui se passe actuellement qu'on peut à tout moment avoir les magasins qui ferment, des camions qui ne passent plus la frontière ou je ne sais quoi, et on a besoin d'avoir de plus en plus de personnes qui mettent la main à la terre, parce qu'on est sur des toutes petites surfaces, et on a besoin de bras. C'est vraiment, nous on travaille sans aide, hein, même si l'ADER nous a un peu aidé en termes de conseils, au niveau financier, on n'a pas d'aide. Et que ce soit pour les légumes ou pour les arbres, c'est vraiment des travaux qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et moi, j'incite le maximum de gens à rejoindre cette armée de paysans qui va réussir à nourrir les générations futures.
Et tu parlais d'être au contact de la terre. Est-ce que tu es aussi au contact de ceux qui mangent tes produits ? Comment tu as mis en place ton circuit de vente ?
Oui, bah alors, encore une fois, quand je suis arrivé, c'était avant tout me nourrir ma famille, nourrir mes enfants. Très vite, je me suis rendu compte que ça me plaisait et que j'avais envie de pouvoir travailler, on va dire, quasiment à plein temps là-dedans. Donc j'ai un peu fait du salariat pour travailler à la vigne, pour avoir un peu d'argent, mais de suite, réussir à sortir des produits que je vendais sous forme de panier à des gens du coin, de Rouvenac principalement. Et avec le temps, on a développé ça, surtout depuis l'arrivée de Christophe, les paniers, mais aussi on a mis en place un petit marché sur Rouvenac où on a la chance d'avoir tous les mardis et les vendredis de 10h à midi des gens qui viennent exprès pour nous acheter des produits, pour discuter avec nous, pour avoir des conseils, parce qu'on vend aussi des plants par exemple. Et donc on a la chance de pouvoir communiquer avec ces personnes-là. Et encore une fois, c'est un métier qui peut être très solide, très solitaire et très difficile, et d'avoir aussi bien des collègues que des clients qui sont conscients des difficultés que l'on rencontre, mais aussi qui sont en certaine manière admiratifs pour ce sacrifice que l'on fait. C'est un grand plaisir, et quand on voit des enfants manger devant nous des tomates cerises en nous regardant avec les yeux qui brillent, il n'y a pas plus beau cadeau, quoi.
Et Tu parles d'un métier solitaire justement. Moi, je le vois plutôt solidaire parce que vous êtes serré les coudes entre maraîchers du même village pour vous aider les uns les autres, notamment au niveau de la commercialisation, c'est ça?
Oui, ça, c'est que quand Christophe est arrivé, on a de suite vu qu'il y avait des atomes crochus, il m'a amené des différents conseils en matière d'irrigation notamment, et on s'est dit, mais on ne peut pas se mettre comme deux concurrents, essayer d'avoir nos clients paniers, perso, et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée du marché, c'est autant faire un lieu commun où on va ensemble, et bien sûr que cette solidarité, c'est ce qu'on cherche à développer à travers l'association Envol Paysan, est nécessaire parce que honnêtement, encore une fois, c'est difficile. Tu parlais tout à l'heure de problèmes de dos, mais il n'y a pas que ça. Ça peut aussi générer des problèmes dans son couple, avec ses enfants, dans le sens où on n'a pas beaucoup de temps à leur accorder, pas autant qu'on aimerait. Et donc le fait de pouvoir travailler avec d'autres personnes, notamment en matière de commercialisation, ça permet de regrouper les forces. Tout le monde n'est pas fort pour tout, que ce soit pour la culture, tout le monde ne sait pas faire tout pousser, et puis il y en a qui sont plus capables de vendre que d'autres, et en se mettant en commun, en mettant les outils en commun, on arrive à avoir une vie plus agréable et être, j'espère, plus efficace, quoi.
Ouais, qu'est-ce que tu en dis, Christophe ?
Ben, je pense que particulièrement dans le maraîchage, c'est important d'être plusieurs, comme il dit, sur différents aspects techniques, même la commercialisation. Parce qu'en termes d'agriculture, pour la céréale, pour la vigne, pour l'élevage, il y a le principe de CUMA qui existe, et où on peut trouver plus ou moins tout le matériel qu'on a besoin en étant inscrit à une CUMA. Et nous, le maraîchage, en plus de la façon dont on le pratique, c'est quand même très diversifié. Ça demande plein d'outils différents. Les cumas n'ont rien à ce niveau-là. Donc, nous, ça passe par beaucoup de tests. Acheter des outils, les tester selon les terres. Ça passe pas selon... c'est vraiment très complet. Et on manque de soutien technique à ce niveau-là, même, je pense, au niveau des formations. Le maraîchage, c'est tellement particulier selon le sol que pour moi c'est l'expérience qui primera surtout. Et donc d'où l'importance de discuter, de se voir. Avec Pierre, on a créé l'association Envol Paysan. C'est tout neuf, il n'y a pas eu encore grande action de fête. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait peut-être pouvoir être en contact de tous les paysans de notre petite vallée, la vallée du Fabi. Pourquoi pas avoir un lieu commun de stockage, parce que tout ça, c'est pareil, on l'a pas forcément sur nos exploitations, c'est pas évident, parce qu'on peut pas racheter des grosses fermes avec tout sur place. Donc avec Pierre, on a eu la chance de se faire prêter un local pour stocker communément nos légumes, et ça nous a donné un point de logistique, c'était génial, vraiment. Et ça, c'est grâce à d'autres paysans, donc d'où l'importance de vraiment discuter, communiquer avec les autres. Et si dans l'avenir, on pouvait même mutualiser du matériel, un lieu de stockage à 7-8 paysans, tout ça, ce serait génial. Et on y travaille en tout cas, et petit à petit.
Super, une dernière question peut-être, vous en vivez aujourd'hui ?
Pas vraiment, non. Comme on disait juste avant la pause, merci au RSA, sans ça on n'aurait pas survécu. Moi j'ai fait un peu de salariat donc l'hiver, et je pense qu'à terme réussir à sortir un SMIC, mais personnellement c'est une petite surface puisque j'ai à peine un demi-hectare, c'est pas encore le cas. Ouais.
Moi c'est pareil, j'en vis pas, là le moindre investissement, ça fait un trou dans la saison, la moindre réparation sur le tracteur... On est dans une période très difficile, quoi. On ne travaille pas au même taux horaire que les autres. Le maraîchage, c'est vraiment décalé. Il y a très peu d'aide à l'installation, mais c'est au suivi. C'est même au suivi, c'est au jour le jour. Nous, c'est un combat du jour le jour comparé à d'autres où la compta d'une année à l'autre, s'il y a les assurances. Voilà, retour de TVA, ça peut passer, nous non. Mais par contre, on mange bien, ça c'est sûr, et notre entourage aussi, ce qui est quand même un principe fondamental.
Super, merci. En 10-15 secondes,
ouais,
peut-être, Nelly, le mot de la fin.
Il existe une aide qui s'appelle le pass installation, c'est une aide régionale et qui du coup, n'est pas soumise aux critères dont je parlais tout à l'heure. Il faut juste soit avoir de l'expérience, et par exemple vous, maintenant que vous avez 2 ans d'expérience en tant qu'agriculteur, vous pourriez en bénéficier, ça serait 5 000 euros de trésorerie et 40 à 60% d'aide sur de l'investissement, max 10 000 euros. Du coup, c'est pas à négliger, et nous à l'ADR, on accompagne pour cette aide-là.
Ok, super. Merci beaucoup, Nelly, de l'ADR. Merci à Christophe et Pierre Maraîcher dans la vallée du Fabi et de l'association Envol Paysan. Merci à Magali du Jardin des Demoiselles. Nicolas, au mois prochain pour une prochaine émission.
Oui, à bientôt. Et puis, toujours à l'écoute de Radio Balade, 101.8.
À bientôt.
Et merci à Radio Balade. C'est le seul truc que j'arrive à capter dans mon champ.
Nickel, merci.